Et pour finir, mange le dessert d'abord. Voilà quelques années, j'ai eu l'occasion d'écrire une nouvelle qui fut publiée au profit des Restos du Cœur. Elle n'est plus disponible aujourd'hui, mais parce que j'y tiens beaucoup et que j'ai voulu rester fidèle à l'esprit bénévole qui a motivé sa création, j'ai eu envie de vous l'offrir, à vous qui me suivez, pour conclure ce livre. Je vais donc vous raconter une autre histoire, et même deux tant qu'à faire. Certes, c'est un peu mon métier, mais là c'est différent, parce que ces histoires sont vraies. Elles prennent naissance autour d'un besoin impérieux. Avez-vous remarqué qu'à part nous, aucune autre espèce sur cette planète ne donne autant d'importance à cette nécessité vitale, se nourrir? De tout temps, sous toutes les latitudes, nous avons élaboré des recettes, des mises en scène et des codes autour de ces moments qui rythment nos vies. Quelle que soit la civilisation ou l'époque, le rituel social et affectif nous fait presque oublier leur fonction première. Pas d'événement majeur sans festin, pas de festin sans convives. Chacun de nous sait que même les plats les plus raffinés ont moins de saveur si on les déguste seuls. Je vais vous avouer quelque chose. Au début de ma carrière dans le cinéma, lors de mes déplacements entre les tournages, il m'arrivait souvent de me retrouver seul au restaurant, un peu partout dans le monde. Je n'ai jamais aimé manger en solitaire, et la fréquentation des cantines, des plateaux, m'a appris que l'on peut toujours trouver quelques mots à partager avec de parfaits inconnus. Alors, j'osais faire ce qui rendait ma mère folle. J'allais vers d'autres personnes seules, et je leur proposais simplement de déjeuner ou de dîner avec moi. Rien de plus, rien de moins. Je l'ai surtout fait avec des hommes. Parce que, après m'être ridiculisé deux fois, je me suis rendu compte que ma démarche était perçue par les femmes, à tort, comme une grossière tentative de drague. Dommage. Sur la route entre Reno et Salt Lake City, dans le diner routier de Battle Mountain, une tablée d'ouvriers m'a même glissé, avec des clins d'œil appuyés, que la serveuse était beaucoup moins farouche que la jeune femme qui venait de m'éconduire. C'est ce jour-là que j'ai décidé de m'adresser exclusivement à des hommes, en espérant qu'il n'y aurait pas d'ambiguïté. J'ai dû le faire une bonne quinzaine de fois, et je n'ai essuyé qu'un seul refus, poli. Dans tous les autres cas, ce fut magique. Vous vous asseyez face à quelqu'un dont vous ne savez rien, et qu'un hasard géographique a placé sur votre chemin. En commençant par évoquer la situation et la façon dont elle est vécue, vous vous placez immédiatement sur un plan aussi personnel qu'universel. Ces tête-à-tête impromptus m'ont appris que la solitude n'est pas forcément une malédiction, parce qu'elle constitue le meilleur premier pas vers la découverte de l'autre. Je n'ai jamais su pour qui votaient ses compagnons de gamelle. J'ignore combien ils gagnaient. Par contre, je sais ce qu'ils ressentaient loin des leurs, ce qu'ils éprouvaient dans leur vie, suivant leur âge, dans des métiers aussi surprenants que variés. VRP, bien sûr, mais aussi grutier, militaire, enseignant, pasteur, contrôleur administratif. Grâce à eux, j'ai eu la chance de vivre des rencontres exceptionnelles. Sans doute parce que nous n'allions jamais nous revoir, parce que nos repas partagés ne représentaient aucun enjeu autre que celui de vivre le moment présent. Nous nous sommes parlé simplement, sincèrement, librement. Nous avons vraiment discuté de tout, de nos rêves de gosse, de bagnole, des parents, des doutes que l'on traverse tous, des regrets, des cadeaux que l'on offre. Impossible de résumer. Tout cela autour d'un hamburger souvent trop cuit dans des restaurants paumés. La vie est partout. On pourrait évoquer les grands festins qui émaillent l'histoire, du banquet de Platon à la Seine, mais je crois que nos dîners d'amoureux, barbecues entre copains, repas de mariage, de fêtes carillonnées et au fond chaque célébration familiale comptent beaucoup plus. Si vous y réfléchissez, je suis certain que dans votre vie, bon nombre de vos souvenirs les plus chaleureux sont associés à une table et à ceux qui étaient réunis autour. Nous partageons alors bien plus que ce qui se mange et se boit. Je trouve magnifique que les Restos du Cœur aient été créés sans autre but que d'aider les autres, sous l'impulsion d'un homme exceptionnel qui pratiquait l'humour parce qu'il connaissait le poids des douleurs. Je trouve fantastique que son élan perdure grâce à ses innombrables volontés, ses multiples solidarités. Il serait sans doute préférable que les restos aient disparu parce que devenus inutiles, mais ils sont plus que jamais une nécessité. L'esprit des restos ne vous est sans doute pas étranger. Par respect pour la mission de ces gens dont nous avons tous besoin, face à la réalité qu'ils affrontent, je ne me suis pas senti capable d'écrire quelque chose qui ne serait qu'une fiction. Alors je vous propose autre chose. Avec vous, j'ai envie de partager deux souvenirs très personnels qui, autour de repas, ont contribué à façonner la vision que j'ai de la vie. J'espère qu'ils trouveront un écho en vous. Le premier nous renvoie en janvier 1996. Je viens d'avoir 30 ans. Tout est en train de basculer professionnellement et, comme souvent, quand ça commence, tout y passe. La dernière semaine de janvier arrive et je ne le sais pas encore, mais elle va peser lourd et changer ma vie à jamais. Le lundi, des partenaires avec qui j'ai longtemps travaillé aux États-Unis me menacent et tentent de m'intimider. C'est une rupture violente, la fin d'une époque fondatrice pour moi. Le mardi, j'apprends que mon premier roman va enfin être publié après des années de vaines tentatives. Je vais peut-être avoir la chance de vous rencontrer à travers mes histoires. Le mercredi, ma femme Pascale et moi recevons le permis de construire pour la maison que nous habitons toujours aujourd'hui. Le jeudi, elle m'annonce qu'elle est enceinte de notre premier enfant. À ce stade, je ne sais même plus si je dois rire, pleurer ou pousser des hurlements au fond des bois. Le vendredi soir, nous nous retrouvons chez mes parents pour fêter les plans désormais autorisés de notre future maison. Maman a préparé ce qu'elle pouvait nous offrir de mieux à la dernière minute. Elle déteste les repas bricolés à la va-vite. Ce n'est pas convenable. À quel moment partager la nouvelle de la grossesse ? Nous décidons de différer l'annonce de quelques jours pour profiter pleinement de ce qu'il y a déjà à célébrer ce soir-là. Comme pour chaque jour en dehors des dimanches, ma mère a mis la table dans la cuisine. Et comme d'habitude, joyeusement, mon père fait valser tout son programme. Nous nous installons tous les deux dans la salle à manger, les croquis étalés sur la grande table. Il est heureux que son gamin fasse bâtir son propre logement et devienne un peu plus un homme. Il se réjouit aussi car nous n'habiterons pas loin. Je ne réalise pas encore dans quelle galère je m'engage avec ce projet. J'écoute ses conseils, il me parle de prise de courant, de plancher béton, du sens d'ouverture des fenêtres, de l'étanchéité de la cave, du diamètre des tuyaux. Je prends des notes. Les dames dînent seules dans la cuisine, maman râle. Le moment est particulier. La semaine a été lourde. Je n'ai pas voulu parler de mes problèmes professionnels pour ne pas inquiéter mes parents. Je me sens un peu en décalage face à la joie de mon père. Tout ce qui arrive par ailleurs et qu'il ignore me conduit à éprouver des sentiments contradictoires. Nous mangeons debout, concentrés sur les plans. Il est en train de me transmettre tout ce que ses différents métiers lui ont appris et qui va m'être très utile. Mon père a passé sa vie à construire des machines, des demeures et des hommes. Je suis l'une de ses réalisations, et ce soir-là, comme souvent, si une partie de mon cerveau est avec lui, l'autre nous observe. Papa me parle, m'explique. De tout son être, il cherche à m'aider. Je suis ému de vivre cela à ses côtés, tout autant qu'à la perspective d'avoir bientôt ma propre maison. Il s'affaire autour de la table et de ses gestes précis me désigne des détails importants. Il m'invite à me rapprocher pour mieux voir. De temps en temps, nous reprenons une bouchée. Chaque fois qu'il fait tomber une miette sur les documents, il la ramasse consciencieusement, en bon ingénieur qui ne supporte pas de souiller ses outils de travail. Parfois, Pascal vient nous voir. Et constatant que nous sommes lancés dans des sujets très techniques, repart vers la cuisine en riant, pendant que maman se lamente toujours parce que nous ne sommes pas à table dans les formes. J'ai adoré ce moment, car il était fort et que j'ai toujours été sensible à ce qui rend la vie plus dense. J'en ai goûté chaque instant et je me souviens des moindres détails. J'ai aimé voir mon père me conseiller, me pousser, m'avertir, m'épauler. Je ne le savais pas, mais c'était la dernière fois que nous dînions ensemble. Nous étions vendredi. Et une crise cardiaque l'a terrassé le dimanche. J'en veux encore à Dieu. Mon père me manque, chaque jour. Il n'a pas vu la maison que j'ai bâtie grâce à lui. Il n'a jamais rencontré ses petits-enfants. Il n'a pas pu franchir le seuil de ce foyer qui doit tant à ses conseils. Ce repas-là est un magnifique souvenir, qui m'a appris à profiter avec une intensité particulière de tous ceux qui ont suivi. Faites attention à ceux avec qui vous mangez. Le second repas dont je souhaite vous parler s'est déroulé alors que j'avais à peine 20 ans. Pyrotechnicien à l'époque, je passe mon temps à faire brûler ou exploser les choses les plus diverses pour des films. Lors d'un tournage au studio de Pinewood en Angleterre, un accident s'est produit et un père de famille y a laissé la vie. Le sens social des entreprises est encore développé alors et la direction prend soin de ceux qui souffrent au-delà du cadre légal. Je ne connais pas la victime et ne participe pas au tournage sur lequel s'est déroulé le drame. Je n'ai vu qu'une photo et une fiche administrative interne. 38 ans, marié, 3 enfants, dont 2 en bas âge. Clinique, tout l'inverse de ce que je suis. Je suis désigné avec mon collègue Andrew pour représenter la société aux obsèques. Bien que nous trouvions évidemment la situation tragique, il s'agit d'abord pour nous d'une journée loin des plateaux. Pardonnez-moi d'être honnête, mais en prenant la route, nous vivons un peu cela comme une escapade forcée qui va ensuite nous obliger à bosser jour et nuit le reste de la semaine. Nous voilà donc partis sur les routes de l'ouest de l'Angleterre, à travers la campagne, sous un ciel conforme à l'idée que l'on se fait de la météo britannique. Je connais bien Andrew. Nous avons effectué notre cursus ensemble, bien que dans des spécialités différentes. N'ayant pas l'habitude de porter des costumes cravates, nous sommes comme deux gamins endimanchés qui auront emprunté la grosse voiture de leur père. Dès le départ, ce périple a quelque chose de surréaliste. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons un beau matin dans le joli cimetière d'un adorable village anglais pour assister à une cérémonie à laquelle nous sommes complètement étrangers. Mais vous ne savez jamais quelles émotions la vie vous réserve. Le chagrin des proches, particulièrement celui de la veuve, me bouleverse. Seul l'aîné des 3 enfants assiste à l'enterrement de son père. Sa mère et lui se cramponnent l'un à l'autre. Nous observons la célébration avec un recul étonnant. Personne n'est jamais présent dans des moments aussi intimes en tant que simple visiteur. Nous ne connaissons aucun de ces gens qui pleurent une injustice du destin, et même si la compassion est là, nous sommes en décalage par rapport à eux. Nous essayons d'adopter une attitude digne, officielle, en nous tenant bien droit. Andrew a croisé ses mains devant lui, moi dans mon dos. Devant la fosse ouverte, au fond de laquelle le cercueil a été placé, les membres de la famille défilent les uns après les autres. Chacun se recueille une dernière fois en jetant un peu de terre ou des pétales de fleurs. À chaque fois, une douleur perceptible s'exprime. Une histoire personnelle, dont nous ne savons rien, se scelle. Je suis loin d'y être insensible. Arrive le tour d'une petite dame assez âgée, coiffée d'un minuscule chapeau et d'une voilette d'un autre temps, qui dissimule en partie son visage. Elle pourrait être la grand-mère du disparu ou sa vieille tante. Très émue, elle s'avance, sa petite main crispée sur des pétales colorés. Au moment de les jeter, inexplicablement, elle n'ouvre pas la main et se laisse emporter par son propre mouvement. La petite dame bascule en poussant un cri. Sa chute soulève aussitôt une exclamation d'effroi dans l'assistance. Le bruit du choc de son corps contre le cercueil est épouvantable. J'imagine déjà le pire. Deux enterrements pour le prix d'un. L'horreur. Comme toujours dans ce genre de circonstances, le temps se trouve brutalement suspendu, et c'est un silence absolu qui succède à la surprise. Même les oiseaux se taisent. Seul un vent léger agite les feuilles des arbres alentour. Cette respiration retenue ne dure pas longtemps, mais elle semble infinie. Avec Andrew, nous nous tenons en retrait et bénéficions d'une vision d'ensemble. Personne n'ose regarder dans la fosse. Soudain, dans le calme total de ce cimetière verdoyant, un râle monte. Puis, du fond de la cavité, c'est une petite main boueuse qui apparaît. « Vous avez vu E.T. ? Vous vous souvenez du moment où ce gentil extraterrestre tend son doigt lumineux en gémissant ? Eh bien, c'est exactement pareil, la petite lumière en moins. La famille se précipite pour porter secours à la malheureuse et la terreur fait place au soulagement. J'ai moi-même eu tellement peur et la situation est tellement improbable que je sens le fou rire monter. Alors que nous avons quitté les studios le matin même, on pourrait se croire sur une scène de film. Mais seule la vie peut se permettre des extravagances de ce genre. Un scénariste se verrait reprocher de ne pas être assez réaliste. Et pourtant... Je me tourne vers mon camarade, mais il n'est plus là. Je le cherche du regard et l'aperçois tout à coup qui court au loin, s'enfuyant dans l'allée latérale du cimetière. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Je reste seul et je vais prêter main forte. La petite dame n'a que quelques bleus et des égratignures. Son chapeau ridicule est en biais. On la nettoie, on la soutient, on la redresse autant que possible. Lorsqu'Andrew réapparaît, il a noué son élégante gabardine Burberry sur ses hanches, comme les enfants qui ne savent pas quoi faire de leur blouson. « Qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi es-tu parti précipitamment ?»« Il le fallait. Et c'est quoi cette tenue ?» Il écarte sa gabardine et me montre son entrejambe. « Tu préfères que j'aille présenter mes condoléances comme ça ?» Andrew s'est pissé dessus. Son pantalon est trempé et ça se voit. Il oscille d'ailleurs toujours entre le fou rire incontrôlable et la gêne. D'un geste de la main, il mime le plongeon de la vieille dame et le rire nous submerge de nouveau. Pourtant, on ne peut pas. Pas le droit, pas question. Alors on se contient. Et du coup, on a encore plus envie de se marrer. Il suffit que l'un des deux murmure « et hop » ou « à trois je saute » et nous repartons de plus belle. Pour nous, le début des ennuis, donc. La cérémonie a repris. Le moment que nous redoutions déjà avant l'incident approche inéluctablement. Maintenant, il nous terrifie. Nous allons devoir passer devant les principaux membres de la famille et présenter nos sincères condoléances officielles. Il nous faut trouver les mots, affronter les regards. Le pire, c'est que la petite dame qui est tombée dans le trou fait partie de ceux que nous devons saluer. Et nous essayons de reprendre notre calme, mais ni Andrew ni moi n'y parvenons. Au mieux, un sourire stupide nous barre le visage, et au pire, on s'étouffe de rire. C'est atroce. Je vais avoir beaucoup de mal à tenir. Je connais mes limites. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir sans frôler l'incident diplomatique. Je me vois déjà, alors que je suis en mission officielle protocolaire, exploser devant elle parce que jamais je ne pourrai oublier ni le cri ridicule qu'elle a poussé en basculant, ni ses petites jambes qui gigotent en plein vol plané. J'ai honte, mais je n'y peux rien. Je suis le jouet des circonstances et elles n'ont pas fini de s'amuser avec moi. Comme des condamnés qui attendent leur tour, nous assistons au défilé de ceux qui présentent leur respect à la famille. C'est un compte à rebours épouvantable. On va y passer. Plus rien ne pourra nous sauver. Nous allons être mignons, Andrew avec son froc mouillé et moi au bord de l'asphyxie. Mon complice pourra difficilement dire que ce sont les larmes de chagrin qui l'ont trempé à cet endroit-là. Personne ne pleure à ce point sur sa braguette. Pour ma part, il me faut en plus affronter un handicap de taille. Je ne maîtrise pas bien mon texte. Je me répète en boucle les mots que je dois prononcer en travaillant mon vilain accent français, mais rien n'y fait. De toute façon, j'ai plus le temps de m'entraîner. Pression supplémentaire. Comme nous passons les derniers, tous les autres auront le loisir de nous voir à l'œuvre. Pour vous donner une idée de l'état dans lequel je suis à cet instant-là, je le comparerai à ce que l'on éprouve juste avant de sauter à l'élastique. On se demande ce qu'on fait là et on espère que tout va tenir parce que sinon on ne s'en sortira pas. Avant d'arriver devant la petite dame, je dois d'abord parler à trois personnes. Je la surveille du coin de l'œil. Malgré son accident, elle fait preuve d'une dignité exemplaire. Je dis quelques mots à une première femme, puis j'avance d'un cran. Je me présente à une autre proche devant qui je bafouille. Je progresse encore d'un cran. J'arrive devant un monsieur qui a les yeux aussi rouges qu'un lapin myxomatosé parce qu'il a beaucoup pleuré. Le sort est contre moi. Je sens bien que je me fissure à l'intérieur. Je ne sais même pas ce que je lui dis. Et soudain, me voici à l'instant tant redouté. Je me retrouve devant Iti. C'est pire que tout ce que j'avais imaginé. En plus, personne n'a osé lui redresser son petit chapeau. Elle porte encore des traces de terre sur son doux visage. Son regard me touche. Je ne vais pas avoir la force de me contenir. Trop d'émotion. Face à elle, je vais éclater de rire en pleurant. Ça monte, ça vient, c'est là. Alors foutu pour foutu, je la prends dans mes bras et j'éclate de rire dans son cou. Elle doit penser que je sanglote et m'étreint à son tour. C'est effroyable. Elle qui souffre tant trouve encore le moyen de faire preuve de chaleur envers moi. C'est sans doute l'une des sensations les plus puissantes qu'il m'ait été donné de ressentir. Un mélange d'extrême compassion et une pulsion de rire absolue face à la situation. On finit par se séparer. Elle a été touchée par mon élan. Point positif, après cette épreuve, parler à la veuve s'avère bien plus simple et nous remplissons finalement notre mission sans trop démériter. Beaucoup de gens regardent quand même étrangement la gabardine nouée autour des hanches d'Andrew. La cérémonie est suivie d'un repas. Seuls les proches sont restés pour entourer la veuve. Parce que nous venons de loin et parce que ces gens adorables sont sensibles à notre présence, ils ont insisté pour que nous restions. Nous n'avons même pas été relégués en bout de table, mais placés presque au centre. Je n'oublierai jamais ce repas. Sans doute à cause de la puissance des émotions vécues et partagées dans la matinée, il m'a marqué comme peu d'autres. Il m'a changé. Nous nous sommes retrouvés plongés au cœur d'une famille, dans l'un des temps forts de son histoire. Je ne connais personne, je les observe, j'évite de croiser le regard d'Andrew parce que lui et moi savons que nous risquons de repartir dans un fou rire. La petite dame est assise quasiment en face de moi. Très vite, la solennité et la tristesse font place à une chaleur certaine. On finit par ne voir que des humains qui s'aiment, rassemblés autour d'une table. Ma situation au sein du groupe me donne assez de détachement pour étudier et apprendre. Je ne connais ni leur degré de parenté, ni même leur prénom. Ils sont seulement des humanités réunies par la peine. Ils parlent du défunt, évoquent ses traits de caractère, des souvenirs, mais sans regret. On pourrait même croire qu'il s'est absenté quelques instants et qu'il va revenir. Le temps d'un repas, ils en oublient presque leur chagrin, parce qu'ils sont ensemble. Chacun s'appuie sur les autres pour surmonter l'épreuve. Pendant cette parenthèse, ils y parviennent. La peine et la douleur reviendront plus tard, mais pour le moment, elles ne sont pas conviées au déjeuner. La famille n'est pas bien grande, mais certains ne se sont pas vus depuis longtemps. J'aperçois les gestes, les regards, les mains qui s'effleurent, les bras qui enlacent, l'affection, ceux qui se penchent pour parler à celui d'en face avec une bienveillance complice. Beaucoup de sourires, quelques rires. Ne connaissant personne, j'observe tous ces signes, ces gestes, de façon quasi ethnologique. J'ai le temps de les analyser, de les apprécier. Je trouve ces gens touchants. Ils me rappellent ma famille. Celui qui n'est plus là serait heureux de les voir réunis ainsi en son nom. Même si l'esprit de notre espèce s'est manifesté ici de façon plus aiguë en raison des circonstances, j'ai appris ce jour-là à l'appréhender dans tous les repas, si anodin soit-il. Mais existe-t-il des repas anodins? Ceux qui ont faim savent que non. Le déjeuner n'a duré qu'une petite heure, mais il m'a donné à ressentir pour des années. Aujourd'hui encore, plus de 30 ans après, j'y pense régulièrement. Une phrase m'a particulièrement marqué. Le père du disparu était assis un peu plus loin à ma droite, et face à lui se trouvait une petite fille qui se plaignait de ne pas aimer le plat principal. Il lui a demandé « Qu'est-ce que tu aimes ?» Sans hésiter, elle a répondu « Les desserts !» Il a alors appelé le serveur et lui a demandé d'apporter le dessert de la petite en y ajoutant sa propre part afin qu'elle en ait davantage. L'enfant était à la fois surprise et heureuse de ne manger que ce qu'elle aimait. Le vieil homme s'est alors penché vers elle et lui a glissé « On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Ne perds pas de temps. Si c'est ce que tu préfères, mange le dessert d'abord. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite le meilleur. Chaleureusement, Gilles. »